Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous encore ce matin.
Amen.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bénissons le Seigneur encore ce matin pour le souffle de vie qu'il nous a accordé. C'est une grâce, alléluia.
Amen.
Dieu est merveilleux, comment ne pas le louer, l'adorer, comment ne pas lui dire merci Seigneur pour tes bontés. Malgré nos iniquités, notre désobéissance, il nous aime et il nous aimera toujours. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ne doute pas de l'amour de Dieu. Il n'est pas venu pour les personnes bien portantes, il est venu pour les péchés. Il est venu pour toi, peut-être qu'il te dit, je suis rejeté par le monde. Oui, le monde te rejettera toujours, mais Dieu ne te rejettera jamais.
Amen.
Alléluia,
Amen.
Il nous aime. Quelle grâce d'avoir vu cette nouvelle année 2026. Il y a certains qui sont partis à une seconde même avant de crier minuit, bonne année. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une grâce. Donc, le ministère des enfants perdus vous souhaite une bonne et heureuse année 2026. Que la paix, que la grâce et le bonheur de Dieu vous accompagnent tout le long de cette année. Amen.
Amen.
Dieu est merveilleux.
Amen.
Bien-aimés, avant de commencer, nous allons écouter une petite louange et après nous allons commencer notre enseignement. Amen. Dieu est merveilleux.
C'est notre saison. Une nouvelle avance, les cieux s'ouvrent. Une page se tourne, une couronne se découvre. Regarde derrière. Vois-nous le chemin qui t'a porté hier, il te tient la main. Chaque larme versée, il a compté. Chaque nuit traversée, il t'a gardé. Tu es encore debout, tu respires encore. C'est la preuve vivante, il est ton trésor. Alors lève tes mains, ouvre ta bouche. On avance avec la foi.
C'est
une nouvelle saison,
c'est
un nouveau printemps. Les portes fermées ont sourire de enfant. Les montagnes vont bouger quand tu viras par la foi. Et les bénédictions pleuvent, reçois-les maintenant. Ouvre ton débat.
Tu ne changes pas, tu es le même à jamais. Emmanuel, Dieu avec nous, Emmanuel.
Amen, amen. Amen, amen, amen. Alléluia. On acclame encore le Seigneur. On l'acclame encore. Dieu est merveilleux. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il nous accompagnera toujours. Alléluia. Dans toute cette année 2026, Dieu est avec nous. Alléluia.
Amen.
Shalom, shalom à toutes les personnes connectées. Je vous souhaite, enfin le ministère des enfants perdus vous souhaite une très bonne et heureuse année 2026. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons rentrer dans notre thème. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle, qu'il vienne nous enseigner, nous guider, qu'il vienne nous éclairer. Qu'aucun autre esprit ne prenne la place, ce n'est le Saint-Esprit. Seigneur, nous te disons encore merci. Merci pour ta présence, merci pour ton amour infini. Merci pour le privilège que tu m'accordes encore ce matin de parler de ta part. Prends la première place. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.
Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, la semaine dernière, c'est-à-dire l'année dernière, c'est le premier culte de l'année. Nous sommes dimanche 4 janvier 2026. Nous avons parlé de la procréation et le sous-thème, c'était la procréation parfaite. Donc, nous sommes toujours sur le thème procréation. Sauf qu'aujourd'hui, nous verrons la procréation dite verticale. Je fais une petite révision du live du dimanche. Il était question de la procréation parfaite. Et dans cette procréation, Dieu a prévu que l'accouchement se fasse sans douleur. Puisque le péché n'a pas encore fait son apparition, tout est parfait dans l'Esprit de Dieu. L'Éternel, quand il a créé le ciel et la terre, tout était parfait. Le péché n'avait pas encore fait son apparition, donc la femme ne pouvait pas être stérile. Personne ne pouvait être malade, tout était parfait. Alléluia.
Amen.
Donc l'avortement était interdit, la pilule était interdite, les méthodes contraceptives interdites, la ligature des trompes interdite, les préservatifs interdits, etc. Puisque tout était parfait. Amen. Dans ce monde parfait, les appareils génitaux de l'homme et de la femme sont créés et formés parfaits. Pour cela, nous devons rendre gloire à Dieu, créateur du ciel et de la terre. Bien aimé, Dieu, quand il a créé le monde, c'était parfait. Il n'y avait pas de péché. Donc, il n'y avait pas de maladie. Une femme ne pouvait pas dire qu'elle est stérile parce que tout ce qu'il a créé était parfait. Il n'y avait pas de stérilité. Et donc, la femme n'accouchait même pas avec douleur parce que le péché n'avait pas fait son entrée. Mais lorsque le péché a fait son entrée, et c'est là où il y a eu beaucoup de choses, bien aimé dans le Seigneur, où à cause du péché, bien aimé dans le Seigneur, le peuple a désobéi à Dieu. Et quand on désobéit à Dieu, forcément, Dieu étend sa main, mais pas pour nous sauver. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il nous montre qu'il est Dieu. On dit que Dieu ne punit pas, mais Dieu nous montre qu'il est Dieu. Dieu nous montre que ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Et donc, il y a quand même quelque chose, il punit. Peut-être que beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec moi, mais quand le peuple d'Israël est allé dans le désert et qu'ils ont désobéi à Dieu, on a vu ce qui s'est passé. Au lieu de faire 40 jours dans le désert, ils ont fait 40 ans dans le désert. Amen. Donc, le thème aujourd'hui, c'est la procréation dite verticale. Qu'est-ce que la procréation dite verticale? C'est une procréation qui est sous le contrôle de Dieu. Il est acteur actif et le couple est acteur passif. Nous allons le comprendre tout le long de l'enseignement. L'homme et la femme doivent obéir sans se justifier, soit à une vision de Dieu, soit à un songe, soit à un message transmis par un ange. Dans ce type de procréation, l'accouchement se fait maintenant avec douleur. Pourquoi? Parce que le péché a fait son entrée. Et l'une des conséquences de la femme fut la souffrance de la grossesse et l'accouchement avec douleur. Vous voyez que dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché, voici ce que le Seigneur a dit à la femme. Dans Genèse 3, verset 16, il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront sur ton mari, mais il dominera sur toi. » Regardez, quand il n'avait pas encore péché, la femme accouchait avec douleur parce que le péché n'avait pas encore fait son entrée. Mais parce qu'ils ont désobéi, voici ce que le Seigneur a dit à la femme, c'est ce qu'on vient de lire dans Genèse 3, verset 16. Donc le péché a des conséquences. Oui. Alléluia. Amen. Donc, cette punition concerne toutes les femmes, que tu sois africaine, européenne, australienne, américaine, asiatique, pygmée ou aborigène. Cette conséquence concerne toutes les femmes à cause de la désobéissance. Amen. Amen. Donc, dans cette procréation verticale, Dieu pilote les faits et gestes des deux tourtereaux et du nouveau-né depuis la révélation en esprit jusqu'à son accomplissement dans le monde réel, celui des vivants. C'est dans cette procréation que Dieu va préparer l'humanité à comprendre le mystère qui entoure la naissance exceptionnelle, mystérieuse et miraculeuse. Jésus, à travers Isaac, point de départ de la révélation. Cette naissance se préparera pendant 2000 ans, donc de Abraham jusqu'à Jésus. Tout commence lorsque Dieu s'adresse à Abraham, alors âgé de 75 ans. Genèse 2, verset 7 dit, « L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » C'est la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Alléluia. Nous sommes toujours sur la procréation verticale. Donc, où le péché a fait son entrée, mais Dieu est actif dans ce couple. Ça veut dire que le couple doit écouter Dieu, parce que lorsque Dieu fait une promesse, il accomplit toujours. Quel que soit ce que vous faites, mais il accomplit toujours sa promesse. Donc, ça veut dire que malgré qu'ils aient péché, Dieu a toujours la main sur Abraham, parce qu'il a dit, c'est de lui que sortira le fils de la promesse. Amen.
Amen.
Donc, tout commence lorsque Dieu s'adresse à Abraham. Donc, nous venons de le lire dans Genèse 12, verset 7, où l'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » De quelle postérité s'agit-il? La réponse nous est donnée par Paul de Tarse dans Galates, chapitre 3, au verset 16. La parole de Dieu dit ceci, « Or, les promesses ont été faites à Abraham. » Et à sa descendance. Alléluia. Il a bien dit à sa descendance. Il n'est pas dit aux descendants. Aux descendants comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais comme il s'agit d'une seule et à la descendance, c'est-à-dire à Christ. Donc, il s'agit ici de Christ. Alléluia.
Amen.
Il ne s'agit pas d'une autre personne, mais il s'agit de Christ. Mais il y a un problème. C'est quoi le problème? Alléluia! Abraham n'a pas d'enfant avec sa femme Sarah. En recevant ce message du monde spirituel, Abraham est dans la confusion totale. Le scepticisme, puisque Sarah a 65 ans, stérile et ménopausée. Amen. Abraham devait se dire, mais avec cet âge, comment est-ce que je peux faire des enfants? Et ma femme aussi est âgée, elle ne peut pas procréer. Donc, il a un peu douté, bien qu'on dise qu'il est le père de la famille, il s'est dit, mais c'est pas possible. Mais alors que tout était déjà fait dans le monde spirituel. Amen. Comme j'ai dit, lorsque Dieu promet, quel que soit ce que tu fais, il va accomplir sa promesse parce qu'il n'est pas un homme pour menteur, pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Amen. Donc, mais il y a un problème, Abraham n'a pas d'enfant avec sa femme Sarah. En recevant ce message du monde spirituel, Abraham est dans la confusion totale, le scepticisme, puisque Sarah a 65 ans, stérile et ménopausée. Donc, Sarah n'ovule plus. Elle n'a plus de menstrues. Ses ovaires sont secs parce que jusqu'à 65 ans, elle n'a jamais fait d'enfant. Elle a épuisé son stock de 456 ovules. Il faut savoir que la femme a 456 ovules et il faut savoir les utiliser. Donc, pas question d'avortement, pas question de pilule. Il faut garder les 456 ovules que Dieu nous a donnés pour pouvoir procréer. Amen. Amen. Donc, elle a épuisé son stock de 456 ovules parce qu'elle n'a pas procréé, elle était stérile. Qui était mise à sa disposition? Donc, scientifiquement parlant, elle ne peut pas enfanter. Amen. Mais là où la science est impuissante, limiter l'Esprit de Dieu, la puissance du Saint-Esprit prendra le relais. Qui peut lutter avec le Saint-Esprit? Qui peut lutter avec la puissance de Dieu? Personne. La science a dit qu'elle ne peut plus enfanter. Mais Dieu a fait une promesse à Abraham. Et Dieu ne marche pas selon nous, Dieu ne parle pas selon nous, Dieu n'agit pas selon nous. Amen. Donc, le scepticisme d'Abraham va l'amener au découragement lorsqu'il fera savoir à Dieu son inquiétude de quitter la terre sans héritier. Nous allons lire Genèse 15, versets 1 à 6. Genèse 15, versets 1 à 6. La parole de Dieu dit ceci. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Amen. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles. » Si tu veux les compter, si tu peux les compter, et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Mais tout ça se fait dans le monde spirituel. Ça ne veut pas dire qu'Abraham a rencontré Dieu, mais ça se fait dans le monde cosmique. Alléluia, le monde spirituel. Donc il fallait que l'Esprit de Dieu vienne lui rassurer que l'enfant de la promesse sortira de tes entrailles, ça veut dire les entrailles de Sarah, mais pas celui que tu gardes dans ta maison. Amen. Donc voilà pourquoi j'ai dit que la procréation dite verticale, c'est vrai que le péché est déjà rentré, mais c'est Dieu qui pilote. C'est-à-dire que Dieu a dit, malgré qu'il y a le péché là, moi j'ai une promesse. L'enfant de la promesse sortira de vous. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous Amen. Me comprenez. Amen. Voilà. Donc il a quelque chose dans sa tête, c'est ce qui va se faire. Malgré vos péchés, c'est pas que Dieu accepte le péché, mais il a promis quelque chose, il faut que ça se fasse, parce qu'il fera des grandes choses avec Isaac. Amen.
Amen.
Donc, Dieu rassure Abraham, on vient de lire ce verset dans toujours Genèse 15, verset 4, où il dit, « Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Donc, Dieu le rassure. Cela signifie que l'héritier sortira des entrailles de Sarah. L'expression « tes entrailles » parce que Abraham était fusionnel à Sarah, les deux formaient une seule chair. Sarah et Abraham étaient fusionnels. Donc, ils ne pouvaient rien faire. C'est-à-dire qu'à chaque, si quelqu'un veut faire, l'un veut faire quelque chose, l'autre est au courant. J'ai des amis qui sont très fusionnels, la mère et le fils. Alléluia. Donc, et c'est comme ça que Sarah était avec Abraham. Amen. Genèse 2, 24 dit ceci, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Amen. Mais quand on dit une seule chair, ce n'est pas le fait qu'ils aient fait des enfants. C'est-à-dire qu'ils sont fusionnels. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de cacheterie. Ils se disent tout. Alléluia. Donc, c'est comme ça qu'étaient Abraham et Sarah. Et nous allons aussi lire 1 Pierre 3:6 qui dit « Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. » Amen. Lorsque Abraham a reçu l'assurance de Dieu, il fallait que le couple se mette maintenant en mode foi. Ça veut dire qu'il devait croire sans plus douter. Dieu a dit qu'on aura un enfant, le fils de la promesse, donc on met maintenant notre foi en action. Amen. Bon. Donc, Hébreux 11, verset 1, dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc, c'est ce que c'est dit ceci de la foi. Hébreux 11, 1 parle de la foi comme ça. Mais au lieu de ça, Sarah ne se sentait plus femme à cause de l'absence des règles et autres. Elle perdit temporellement la foi et se mit en mode sens. Ça veut dire que maintenant, elle réfléchissait, elle se disait, bon, c'est vrai, Dieu a dit que j'aurai un enfant, mais bon, elle a perdu la foi un moment, elle a décidé de faire autrement. Alléluia, c'est ce que nous allons voir. En agissant ainsi, elle réveilla le serpent, ça veut dire le monologue, ça veut dire qu'elle parlait en elle-même en disant, Dieu a dit ça, mais moi je veux faire autrement. Alléluia. Amen. Donc, le serpent, le monologue, qui la suggéra de prendre sa servante ou esclave égyptienne Agar. Lorsqu'on dit le serpent, ce n'est pas l'animal. Hein. Ça veut dire que tu parles dans ta tête en disant, Dieu m'a dit ça, mais moi je veux faire autrement. Donc tu contredis Dieu. Là, c'est le diable qui rentre en toi, mais c'est toi-même qui parle en toi-même. Ouais. Amen. Ouais. Donc, en agissant ainsi, elle réveilla le serpent, le monologue, qui la suggéra de prendre sa servante ou esclave égyptienne Agar et de la donner à son mari Abraham afin qu'elle ait une descendance par elle. Ça, c'était le plan de Sarah, mais ce n'était pas le plan de Dieu. Ouais. Amen. Dieu a dit, je vous donnerai le fils de la promesse, donc il fallait maintenant qu'ils aient la foi et puis qu'ils patientent. Par ce geste, elle a activé le démon de justification. Donc, elle se justifiait et a désobéi à Dieu via son mari. Comme ils étaient fusionnels, Abraham a accepté la proposition de Sarah. Donc, il a désobéi, il aimait sa femme, il s'est dit, bon, pourquoi pas, puisque tu as décidé, je vais le faire, je t'aime, tu m'aimes, je suis ton Seigneur, tu es ma femme, donc voilà. Comme ils sont fusionnels, ils ne peuvent rien se refuser. Alléluia. Comme ils étaient fusionnels, Abraham accepta la proposition de Sarah. Donc, Genèse 16, versets 1 à 4. Genèse 16, versets 1 à 4, la parole de Dieu dit ceci. Saraï, parce que là, elle ne s'appelait pas encore Sarah, ni Abraham, c'était Abraham. Donc, Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, dit à Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Alléluia. Et elle devint enceinte. Est-ce que le fait que Abraham soit allé vers Agar, c'était le plan de Dieu? Non, ce n'était pas le plan de Dieu, c'était l'impatience de Sarah. Alléluia. Amen. Donc, de cette union est né Ismaël. Abraham avait 86 ans. À la naissance d'Ismaël et Sarah, 76 ans. Abraham et Sarah ont désobéi au message de Dieu qui disait que de tes entrailles, ça veut dire celle de Sarah, sortira l'héritier. Ceci ne vous rappelle pas Adam et Ève au jardin d'Éden, ils ont désobéi. Amen. Genèse 3, versets 1 à 7. Genèse 3, versets 1 à 7, la parole de Dieu dit ceci. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Donc, en disant cela, il met le doute dans la tête de Ève. Amen. La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous ne n'y toucherez point. » De peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourriez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Amen. Quand ils n'avaient pas encore goûté au fruit de l'arbre de la vie, du bien et de la connaissance, du mal et du bien, voilà, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Amen. Donc, Dieu était vraiment acteur dans leur couple. Mais quand ils ont goûté aux fruits, ils ont découvert qu'ils étaient nus.
C'est ça.
Amen. Amen. Donc, amen. Lorsqu'on veut faire les choses selon nous, ben, la honte est maintenant notre partage. Ils étaient nus avant qu'ils ne mangent le fruit. Ils n'avaient pas honte. Ils ne savaient même pas qu'ils étaient nus. Ils étaient conduits par Dieu. Mais ils ont désobéi. Vous voyez que la désobéissance a des conséquences graves. Dieu dit, comment vous savez que vous êtes nus? C'est que vous avez goûté aux fruits. Hein? Bon. Amen. Donc, Abraham et Sarah sont la copie, copier-coller de ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Parce que Dieu a dit qu'il leur donnera une descendance, mais Sarah était possédée. C'est toujours les femmes. Que Dieu nous délivre ce matin. Amen. Nota bene. Dans la procréation dite verticale, Dieu dit ou Dieu parle. Et le couple doit obéir, patienter et fonctionner en mode de foi. Amen. Donc, amen. Dieu dit quelque chose. Ce que nous devons avoir, c'est la foi, c'est la patience. Et se contenter à lui en esprit et en vérité. À cause de la désobéissance, du manque de discernement, de foi, Dieu va punir le couple pendant 13 ans. Pourquoi 13 ans? Entre la naissance d'Isaac, la naissance d'Ismaël et la naissance d'Isaac, il y a eu 13 ans qui se sont écoulés. Donc, Dieu va punir le couple pendant 13 ans, ignorant qu'Isaac est prêt dans le monde invisible, au monde spirituel. Dieu avait déjà préparé Isaac. Amen. Mais il les a laissés encore pendant 13 ans parce qu'ils avaient désobéi. Il est formaté d'avance, alléluia, comme l'a été Jérémie. Amen. Jérémie avait des parents. Il est né d'une femme. Mais sauf que Jérémie, ce n'était pas ses parents qui le contrôlaient. Pourquoi? Parce que dans Jérémie 1:5, la parole de Dieu dit que je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir avant même que tu sois né. Et je t'avais destiné à être mon porte-parole auprès des nations. Dieu cherche quand même un ventre pour mettre son serviteur. Il avait une mère, il avait un père, mais il n'avait aucun droit sur Jérémie. Ils ont élevé Jérémie, mais Jérémie était déjà destiné à servir Dieu et aller dans les nations pour proclamer sa parole. Donc, c'est ça la procréation verticale, dite verticale. Même s'il y a le péché, mais quand Dieu a décidé quelque chose, quel que soit ce que nous pouvons faire, la chose va se réaliser pour montrer sa puissance. Amen. 65 ans, scientifiquement parlant, une femme ne peut plus faire d'enfant, mais Dieu vient nous prouver qu'il est Dieu. Alléluia, qui n'est pas un homme et qu'il fait ce que nous les hommes ne pouvons pas faire. Que là où l'homme est limité, Dieu il n'est pas limité, il prend le dessus et puis il nous montre que voilà, il est Dieu. Mm-hmm. Amen.
Amen. Amen.
Donc, on vient de lire Jérémie 1:5. À la 13e année, Dieu a dépêché en urgence 3 anges chargés de régler 2 problèmes sur la terre. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Dieu cherche toujours une situation pour venir vous montrer que à partir de cette situation, je peux faire quelque chose d'extraordinaire. Je peux sortir des gens du péché, je peux venir, c'est-à-dire que là où il y a la guerre, les gens se disent, on ne peut plus rien faire, moi je viens, je mets la paix. Là où il y a la stérilité, moi je viens, je donne l'enfantement. Là où il y a la pauvreté, je donne la richesse. Amen. Donc il a déployé 3 anges pour dérégler. Trois anges pour venir régler 2 problèmes sur la terre. C'était quoi le premier problème? C'est le désordre sexuel et l'immoralité qui sévissait à Sodome et Gomorrhe. Ces 3 anges-là sont passés par Abraham, mais ils devaient aussi aller à Sodome et Gomorrhe. Et en passant par Abraham, c'était pour rassurer à Abraham que ta femme, à cette même époque, aura un enfant. Amen. Donc, c'était ça, le désordre sexuel et l'immoralité qui sévissait à Sodome et Gomorrhe et la stérilité de Sarah. Voici ce que l'un des anges a dit à Sarah dans Genèse 18, Genèse 18, versets 9 à 14. La parole de Dieu dit ceci. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je viendrai vers toi à cette même époque et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au moment, au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, Sarah aura un fils. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Sarah dit, je suis vieille, mon mari est vieux. Mais comment Sarah peut dire ça? Est-ce que quelque chose m'est impossible? Non. Vous voyez, le doute. Malgré le doute, Dieu devait glorifier son nom en lui donnant un enfant à l'âge de 90 ans. Alléluia.
Amen.
Au moment où l'ange de Dieu a proclamé la parole, excusez-moi, au moment où l'ange de Dieu a proclamé une parole de bénédiction à l'endroit de Sarah, la puissance de l'Éternel s'est libérée en allant réactiver l'ovaire qui finit par reproduire des ovules. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait quand il a dit ça? Dans le monde spirituel, il allait réactiver les ovaires qu'on disait qu'elles étaient stériles. Regardez la parole de Dieu. Comment la parole de Dieu est puissante. Donc, il a proclamé une parole et ça allait tout arranger. Alors que la science avait dit terminé. 65 ans, tu ne peux pas faire d'âge d'enfant. Mais Dieu a 90 ans. Il est venu confondre le monde. Sa parole allait guérir Sarah de la stérilité. Amen. Donc, est-ce que c'est pas merveilleux? Hein?
Amen.
C'est-à-dire que là où tu dis je ne peux plus, Dieu dit à mon enfant, ça c'est toi qui as parlé, moi je n'ai pas encore dit mon dernier mot.
Oui, oui.
Donc, Aie confiance, aie la foi, je suis avec toi. De tes entrailles, là, sortira le fils de la promesse. Et c'était Isaac, c'était pas Ismaël. Donc Dieu, il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Ce qu'a vécu Sarah, c'est sensiblement comme ça que les éléments de la création se sont constitués. Donc on va lire ça dans Genèse 1, verset 11. La parole de Dieu dit, Genèse 1, verset 11, « Dieu dit alors que la terre produise de la végétation, des herbes produisant leurs semences et des arbres fruitiers, dont chaque espèce porte ses propres graines, et cela se réalisera. » Donc, tout a été fait par la parole. Dieu dit quelque chose et ça se passe. Ouais. Alléluia. Alléluia. Tout a été fait par la parole. Donc, dans Genèse 1, 11, « Et cela fut ainsi. » Une femme a témoigné, vous voyez, je veux donner le témoignage d'une femme dans TikTok qui a dit, elle n'avait jamais eu de grossesse, elle n'avait jamais eu de retard jusqu'à la ménopause. Elle a gardé la foi et a été suivie par un pasteur. Alléluia, je lis ce qu'elle a dit. Et un miracle s'est produit, elle a vécu, elle a vu apparaître ses règles, ensuite est tombée enceinte. Dieu ne lui a pas seulement donné un enfant, mais Dieu lui a donné des jumeaux. Alors que la science avait dit, toi, tu ne peux plus faire d'enfant. Elle n'est jamais tombée enceinte. Amen. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Rien n'est impossible à Dieu. Rien. C'est que nous doutons ou on est pressé, on compte sur les hommes, on n'a plus de foi et puis on se dit, surtout quand on vit une situation depuis des années, on se dit, mais si Dieu me regardait vraiment, je ne serais pas dans cet état. Si Dieu existait, vous voyez la bêtise qu'on fait, si Dieu existait, je ne serais pas comme ça. Mais Dieu existe, mais on ne se pose pas la question de savoir, est-ce que moi je suis correct avec Dieu? Est-ce que je marche selon la volonté de Dieu? Mais nous passons notre temps à accuser Dieu. Si Dieu était là, si Dieu voyait, mais toi, qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Tu ne prends même pas une seconde pour lui dire merci. Tu ne prends pas un temps, dis-moi, de méditation avec, dans sa parole, mais tu te plains. Tu te plains. C'est pour ça que j'ai dit, Dieu nous aime. Malgré nos plaintes, malgré tout ce que nous faisons, Dieu nous aime et personne ne peut nous aimer comme Dieu. Une fois, il y a une personne qui m'a dit, mais comment tu peux insister en disant que Dieu nous aime? Si Dieu nous aimait, il n'y aurait pas les guerres dans ce monde. J'ai dit, waouh! J'ai dit, réponds-toi à ce que tu viens de dire. J'ai dit, réponds-toi. Pourquoi il y a des guerres dans le monde? Les gens sont comment? Est-ce que c'est Dieu qui provoque les guerres?
Ouais.
J'ai dit, regarde, il y a deux personnes, j'étais aux Antilles, deux frères. Dieu est merveilleux. À cause d'un bout de terrain, à cause seulement d'un bout de terrain, parce que l'autre empiétait sur le terrain de l'autre, eh bien, ils se sont insultés et c'est parti aux mains, et c'est parti aux armes, et puis il y a un qui est mort dans ça. Est-ce que c'est Dieu qui a provoqué ça? C'est-à-dire que ton instinct animal s'est réveillé, et puis voilà, et ça, est-ce que c'est Dieu qui a voulu que tu tues ton frère? Les biens de la terre vont rester.
Mais oui, c'est clair.
Et donc, quand la personne m'a dit, si Dieu existait, il n'y aurait pas les guerres dans le monde, j'ai dit, waouh, réponds-toi. Donc, on accuse toujours Dieu, mais malgré ça, son amour est incommensurable. Il nous aime toujours. Amen.
Amen.
Non, on n'a pas de patience. Donc, toute la création s'est faite par la puissance de la parole. Dieu dit un mot et la chose arrive. Malgré leur âge avancé, Abraham 100 ans, Sarah 90 ans, Isaac est né dans la plus grande joie du couple. La foi, la patience, l'endurance, l'obéissance ont fini par payer. Tu ne peux pas avoir la foi, tu ne peux pas être obéissant, tu ne peux pas être patient et que Dieu ne manifeste pas sa gloire dans ta vie, ce n'est pas possible. Ça prendra le temps que ça prendra, mais il verra ta foi, il verra ton obéissance, il verra ta patience. Forcément, il va manifester sa gloire dans ta vie. Alléluia.
Amen.
Excusez-moi, je vais me mettre dans les... L'enfant de la promesse est né. Dieu a tenu sa parole. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Alléluia. Donc, il a tenu à sa parole et son engagement. Il s'appelle Isaac, qui signifie « elle a ri ». Donc, ça, ça se trouve dans Genèse 18, verset 12. Elle rit en elle-même en disant « Maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs ? Mon Seigneur est aussi vieux. » Alléluia. Donc, Isaac, ça veut dire quoi ? Elle a ri. Parce que quand on lui a dit qu'elle allait faire un enfant, vous voyez, on regarde toujours à notre condition. Et c'est ce qui freine la main de Dieu. Mais quand Dieu a dit qu'en toi, là, je veux faire quelque chose, les gens vont te juger. Mais lui... De cette personne-là, j'en ferai quelque chose d'extraordinaire. Mais les gens regarderont toujours ton passé. Alors que quand tu rencontres Jésus, forcément, il y a un changement. Amen. Donc, elle a ri. Elle a regardé à son âge et dit, non, celui-là, il raconte ça. Alors que Dieu disait la vérité. Donc, bien aimé, ici, nous traitons des choses spirituelles, pas des choses physiques. Quand il avait fait la promesse à Abraham, il n'a pas parlé à Abraham comme Dieu vous parle comme ça. C'était en esprit. Alléluia. Donc, les choses de Dieu dépassent l'entendement humain. Maintenant, je vous invite à découvrir le mystère caché derrière la naissance d'Isaac. Hypothèse scientifique. Comme je disais, on fait un peu de la science parce que la parole de Dieu, ce n'est pas seulement spirituelle. Amen. On ne peut pas exclure la science. Si la ménopause de Sarah avait débuté à l'âge de 50 ans, si vous faites le calcul, elle a fait Isaac à quel âge ? 90 ans. À 50 ans, on va dire que c'est l'âge de la ménopause. Donc, entre, quand on fait la soustraction, 90 et 50, c'est 40. Donc, pendant 40 ans, elle était dans un désert avant que Isaac n'arrive. Elle était dans le désert, elle était dans la souffrance, elle était dans l'humiliation parce qu'une femme qui est mariée et qui n'a pas d'enfant, c'est une humiliation. Et puis tu souffres, toi-même tu te dis, mais pourquoi je n'enfante pas, qu'est-ce que j'ai fait? Donc elle a eu 40 ans dans la souffrance, dans le désert, dans l'humiliation, dans la réflexion. Elle a eu Isaac à quel âge? À 90 ans, 50 ans, c'est l'âge supposé être ménopausé. Mais Dieu est venu bousculer les choses avec une parole.
Ouais.
Amen.
Amen.
Donc, spirituellement, les 40 ans de stérilité de Sarah préfiguraient les 400 ans d'esclavage des Hébreux par Dieu avant de révéler à Abraham, bien avant la naissance de ses enfants. Je reprends. Or, spirituellement, les 400 ans de stérilité, les 40 ans de stérilité de Sarah préfiguraient les 400 ans d'esclavage des Hébreux que Dieu avait révélé à Abraham bien avant la naissance de ses enfants. Genèse 15, 13, la parole de Dieu dit ceci. Le Seigneur lui dit, sache bien que les descendants, tes descendants séjourneront dans un pays étranger. Ils seront esclaves et on les opprimera pendant 400 ans. Amen. Donc, on vient de lire Genèse 15, verset 13. Elle préfigure aussi les 40 ans passés dans le désert des Hébreux après la sortie d'Égypte. Nombre 32, verset 13. Ainsi continua Moïse. Le Seigneur s'est mis en colère contre les Israélites et il les a obligés à passer 40 ans. Amen. Dans le désert, jusqu'à la disparition de toute la génération dont la conduite lui avait déplu. Donc, les 40 ans ont une signification, c'est-à-dire qu'à cause de la désobéissance, ils ont passé 40 ans dans le désert. Sarah, elle a douté. Elle allait faire un enfant, avant Isaac. Donc, c'était Ismaël. Il y a eu 13 ans d'écart entre Ismaël et Isaac. Elle était ménopausée. Dieu a fait patienter Abraham et Sarah. Dieu nous teste, hein. Il nous a promis quelque chose. Nous, on peut penser que ça se ferait dans l'immédiat, alors que ça peut se faire des années plus tard. Et donc, ta foi, là, tu dois la mettre vraiment en action, c'est-à-dire que tu patientes. Il faut avoir la patience.
Ouais.
Sinon, eh bien, tu n'auras rien. Donc, pendant 40 ans, après sa ménopause, elle a attendu pour avoir Isaac. Le peuple d'Israël, là, on dit 40 jours dans le désert, et ils partent murmurer, vont critiquer. Ils ont fait 40 ans. Amen. Elle préfigure aussi les 40 jours de jeûne de Jésus au sortir du baptême d'eau, Luc 4, verset 2, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Donc, le chiffre 40, hein? 40 jours, il ne mangeait rien pendant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, ils eurent faim. Elle préfigure aussi les 40 jours après la résurrection de Jésus. Dans Actes 1, verset 3, en effet, après sa mort, c'est à eux qu'il se montra. Donc, Jésus se montra à ses disciples, à leur prouvant de bien de manière qu'il était vivant. Pendant 40 jours, il leur apparut et leur parla du royaume de Dieu. Amen. Donc, la procréation dite verticale, ça veut dire que le péché est déjà rentré, mais Dieu, il est acteur. C'est-à-dire que tu peux faire tout ce que tu veux, mais je dis que toi, tu vas proclamer mon évangile en mon temps. Donc, tu peux pécher, tu peux ne pas me croire, tu peux faire tout ce que tu veux, mais le jour, il y a toujours un jour où je vais décider que c'est maintenant, mais ça va être maintenant. Amen. Donc, Sarah, on dit que, quand je faisais les cours avec mon mentor, je disais, mais on dit que Abraham était le père de la foi. Mais à un moment donné, il a douté. On est des êtres humains aussi. Donc, Dieu te promet quelque chose. Ok, c'est Dieu, il ne ment pas, mais tu comptes les jours. Mais Dieu ne t'a pas dit que si je te promets la maison, là, c'est demain que tu auras la maison. Tu peux passer 40 ans dans le jeu, c'est-à-dire que tu es seulement en mode foi. Je crois, je crois et je crois. Je crois et je crois. Amen. Donc, en conclusion, Isaac est un type de Christ. C'est différent d'Ismaël ou des six garçons d'Abraham qu'il a fait avec Keturah. Donc, Isaac, en fait, c'était l'enfant de la promesse. L'enfant que Dieu avait promis. Ce n'était pas n'importe qui. Comme Christ qui est venu sur la terre et qui a pris tous nos péchés. Alléluia. Qui est parti sur la croix. Donc, Isaac est une préfiguration de Christ. Amen. Il n'est pas comme Ismaël et les six garçons qu'Abraham avait fait avec Keturah dans Genèse chapitre 25 à partir du verset 1 au verset 2. La parole de Dieu dit, Abraham prit une autre femme nommée Keturah. Amen. Le verset 2 dit, elle lui donna pour fils Zimra, Yoxan, Médan, Madian, Shebak et Shua. Donc, ces enfants-là, Ismaël et les enfants de Keturah, la femme qu'a eu Abraham après Sarah, n'étaient pas les enfants de la promesse. Amen. Donc, Isaac est né de la puissance de Dieu. C'est l'enfant de la promesse. Amen. Donc, la procréation verticale. Abraham et Sarah étaient un couple passif et Dieu acteur actif. Donc, c'est ça la procréation dite verticale. C'est-à-dire, vous avez l'enfant, vous ne décidez rien. C'est Dieu qui est l'acteur. C'est Dieu qui dit, cet enfant fera ci, cet enfant fera ça. J'enverrai cet enfant où je veux. Amen.
Amen.
Dieu a tout contrôlé depuis le monde invisible jusqu'à l'accomplissement. Amen.
Amen.
Donc, tout se passe d'abord dans le monde invisible avant qu'il soit physique. Par contre, Ismaël est issu de la procréation horizontale où Dieu est acteur passif et le couple acteur actif. La procréation dite horizontale, nous le verrons le dimanche prochain. Amen. Juste Ça veut dire que la procréation horizontale, Dieu, il est passif et le couple est actif. Donc, c'est le couple qui décide de tout faire et Dieu les regarde. Et quand Dieu regarde sans rien dire, il y a des conséquences. Amen.
Amen.
Donc, Abraham et Sarah ont agi avec émotion, leur intelligence et désobéi au message de Dieu. Bien que Isaac soit le fils de la promesse, vous rappelez qu'à un moment donné, ils ont manqué de foi, puisque Sarah a proposé à Abraham sa servante. Il faut savoir que c'était des êtres humains comme nous. Alléluia. Dieu est merveilleux. Donc, à les 40 ans de traversée du désert de Sarah, est le signe spirituel de Dieu qui permet d'attester haut et fort que Jésus est celui qui est chargé d'ôter le péché du monde et investi de l'autorité divine. Donc, dans tout ça, la finalité, c'est Jésus. Amen. Quand j'ai dit Isaac était le type de Christ, et Christ est venu nous affranchir du péché. Nous allons lire Matthieu 3, verset 16 à 17. Matthieu 3, verset 16 à 17. Je lis la parole de Dieu avec respect. Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau. Au même moment, le ciel s'ouvrit pour lui. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix venant du ciel déclara, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, je mets en lui toute ma joie. » Là, j'ai pris la version français courant. Vous voyez, donc, le fils de la promesse, ce n'était pas Ismaël, c'était Isaac. Et quand Jésus est sorti des eaux du baptême, qu'est-ce que Dieu a dit? Il déclara que celui-ci est mon fils bien-aimé, je mets en lui toute ma joie. Alléluia. Donc, amen. De la Genèse à l'Apocalypse, il s'agit de Christ.
Ouais.
Amen. Christ est venu nous sauver. C'était comme Isaac, le fils de la promesse. Christ était le fils de la promesse. Sans Christ, on ne pouvait rien faire. Sans Christ, on était dans le péché, on n'était pas sauvé. Qui pouvait nous sauver s'il n'y a pas eu un sacrifice et ce n'était pas des moindres? Un innocent qui a tout payé à la croix pour nous. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que lorsque Dieu te promet quelque chose, la foi, la patience, la désobéissance doit être ton partage. Sinon, tu vas toujours retarder les choses. Tu dis, bon, comme Dieu ne le fait pas, je vais le faire. Comme Dieu n'agit pas, je vais appeler mes contacts, mes relations et tout. Mais tu es en train de retarder les choses. C'est ce que le peuple d'Israël a fait à force de murmurer. Dieu a dit 40 jours, mais vous allez faire 40 ans, vous allez errer. Beaucoup de personnes errent parce qu'ils n'attendent pas la promesse de Dieu dans la foi, dans l'obéissance et dans la patience. Amen.
Amen.
Bien-aimés, nous ne pouvons pas terminer ce culte sans pour autant demander aux personnes qui n'ont pas encore accepté Christ dans leur vie. Alléluia. J'ai toujours dit qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, moi je sais que j'ai mon Dieu, moi je sais que mon Dieu m'aime. Forcément, il nous a aimés avant qu'on l'aime. Mm-hmm. Mais est-ce que toi, tu l'as déjà accepté dans ta vie comme Seigneur et Sauveur? Parce que dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12 ou 13, il dit, à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui ont cru, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Donc, si tu n'as pas cru, si tu n'as pas reçu Jésus, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es la créature de Dieu, mais tu n'es pas son enfant. Amen. Donc, il y a beaucoup de personnes, comme j'ai toujours dit, la gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. Ah, je suis gentil, je rends service aux gens, c'est bien. Tu as un cœur comme ça, un cœur compatissant, mais est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Parce que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, il y a des choses que tu ne peux plus te permettre de faire parce que tu crains Dieu, mais tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Quelle est ta source de lumière? Tu t'accroches à qui pour te dire, si je fais ça, je sais que ce n'est pas bon, il me voit. Mais toi, tu t'appuies sur qui pour dire ça? Mais tu sais qu'il y a un Dieu, mais tu ne l'acceptes pas parce que tu n'es pas encore, tu n'as pas pris la décision d'abandonner le monde. Donc, tu dis, je fais, mais je reste dans le monde. Dieu me voit, Dieu sait que je suis gentil, Dieu sait que j'aime aider et tout. Oui, mais Dieu veut de toi Dieu veut que tu sortes du monde. Dieu veut que tu sortes des ténèbres pour la lumière. Et sachez que les ténèbres, c'est l'absence vraiment, l'absence de lumière. Alléluia. Tu es dans le noir, tu es dans le noir. Donc, à toutes les personnes qui me suivent, qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, ou ceux qui ont donné leur vie à Jésus, mais parce qu'ils n'ont pas vu l'accomplissement de la promesse de Dieu dans leur vie, se sont dit, Dieu n'existe pas. J'aimerais te dire ceci, réponds-toi, Dieu existe, mais Dieu attend tout simplement que tu lui fasses confiance. Amen.
Amen.
Donc, Père Céleste, je te bénis pour ton amour envers moi. En me donnant ton Fils unique, le Seigneur Jésus, et je te remercie de la grâce que tu m'as faite de devenir enfant de Dieu. J'étais loin de toi, marchant selon les convoitises de ce monde, mais aujourd'hui, je me repens et je t'ouvre mon cœur afin de recevoir le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne-moi mes offenses, purifie mon cœur par ton sang versé pour moi et fais luire ta lumière dans ma vie afin que je devienne enfant de Dieu. Que ma vie devienne un parfum de bonne odeur pour mon Père éternel. Merci Seigneur Jésus de m'avoir racheté et sauvé. À toi l'honneur, le règne, la force, la puissance, la gloire, la domination et la majesté avec action de grâce pour des siècles des siècles. Amen.
Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous arrivons au terme de notre culte. Je prie vraiment que ce message puisse venir changer nos mentalités. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'obéissance, la patience et la foi doivent véritablement être notre partage si nous voulons voir la matérialisation de la puissance de Dieu dans nos vies, dans tous nos projets. Alléluia.
Amen.
Donc, ne soyez pas impatients. Dieu n'oublie personne. Si aujourd'hui nous sommes là, c'est parce que Dieu l'a permis. Amen. Ce n'est pas par notre beauté, notre éloquence, notre intelligence. Non, c'est parce que Dieu l'a permis. Et nous bénissons encore l'Éternel de nous avoir fait grâce de voir cette année 2026. Et que nous marchons dans l'obéissance et que notre source de lumière soit Dieu. Amen.
Amen.
Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée dans la paix, dans l'amour. Alléluia. Et dans la joie. C'était votre humble sœur et servante, le prophète Jérémie, du ministère des enfants perdus. Soyez divinement bénis. Amen.
Amen.